merci Bill et Hélène pour ces beaux chants qui nous réchauffent le cœur toujours avant le message. On va prendre quelques instants pour nous recommander la grâce de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes d'être dans un pays où est-ce qu'il y a la paix, la tranquillité, où nous pouvons nous rassembler en toute quiétude autour de ta personne, sous ton regard, pour entendre ta parole. Et nous voulons te demander alors de venir et de nous bénir ce soir. On a besoin, Seigneur, d'entendre ta voix. Moi, le premier, ouvre nos yeux, notre intelligence, et que l'Esprit Saint puisse faire une œuvre spirituelle dans chaque cœur, notre Dieu, afin que nous puissions être transformés de plus en plus à l'image de ton Fils. Merci pour tes grâces, merci pour ta miséricorde, merci pour tes compassions, et surtout aussi merci pour ton grand amour qui t'a fait donner ton Fils Jésus-Christ comme sacrifice pour nos péchés à la croix. Sois béni, Seigneur, et sois avec nous, en ton nom et pour ta gloire. Amen. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et trouver encore l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est notre étude systématique de ce beau texte, cet épître, comme nous avons dit la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas ici, tellement riche, tellement pratique. Et notre thème que nous avons vu la semaine dernière était la plénitude de l'Esprit. Et nous avons vu cinq choses qu'il faut comprendre à propos de la plénitude. Nous avons commencé, je voulais dire, cette étude, on en a vu trois. Et je vous donnerai simplement un petit résumé avant de continuer notre étude. Tout d'abord, nous avons établi le contexte. Nous avons parlé justement de ce texte dans Éphésiens 5, verset 18, où l'apôtre Paul donne cette exhortation. Ne vous enivrez pas de vin. Et dans le contexte de ce texte, nous savons que les Éphésiens, Éphèse est une ville païenne, ville débauchée, où les gens rendaient un culte à leur Dieu et cherchaient des expériences religieuses extatiques. Et c'était accompagné souvent de l'alcool. Ensuite, nous avons vu qu'il y avait une contrefaçon d'être rempli de vin, d'être ivre au lieu d'être rempli de l'esprit. Et nous avons regardé les textes où est-ce que la Bible condamne l'ivresse d'être ivre. Et nous avons ensuite considéré le commandement. Alors, le côté positif maintenant, mais soyez plutôt rempli de l'esprit. Et nous avons dit que cela faisait partie de la vie chrétienne normale. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à des super spirituels, mais chaque croyant devrait être rempli de l'esprit. Et ensuite, nous avons regardé des motivations qui pourraient nous inciter justement à mettre cette exhortation en pratique. Nous avons vu que c'était un privilège exceptionnel. Nous avons regardé dans l'Ancien Testament et nous avons constaté qu'il y avait des individus qui avaient l'esprit sur eux et qui parfois étaient remplis de l'esprit, mais ce n'était pas permanent. Il y avait la possibilité de perdre l'esprit. Mais depuis le jour de la Pentecôte, l'esprit est venu habiter le croyant. L'esprit aussi peut le remplir et c'est tout un privilège. Et la question que nous nous sommes posée, est-ce que nous apprécions justement ce privilège. Nous avons vu aussi que rempli l'esprit nous permet de connaître une personne extraordinaire, le Saint-Esprit qui a un ministère extraordinaire chez le croyant. Et nous avons regardé justement ce terme, le paraclétos, le consolateur, celui qui a un ministère d'encouragement et d'exhortation. Et nous avons vu quelques-uns justement de ces titres. On l'appelle l'esprit de vérité parce qu'il nous conduit dans la vérité. Et c'est aussi un esprit de puissance dans notre faiblesse. L'esprit est là pour nous fortifier. Nous avons vu aussi c'était un esprit d'intercession. Le texte nous dit que nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Alors, quel beau ministère et combien c'est important de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce qu'en ce moment-là, les ministères qui voudraient accomplir en nous sont sabotés. Nous avons vu aussi que l'Esprit, non seulement était une personne extraordinaire du fait qu'il y a ce ministère, mais il y a aussi un esprit de joie. Et le croyant, et ici vous avez, parce que il y a le plaisir dans le contexte d'Éphèse, ceux qui se rendaient dans les temples païens allaient là justement pour avoir du plaisir. Mais le Saint-Esprit nous donne le vrai plaisir, la joie dans le Seigneur. C'est un esprit de joie. Et la question que nous nous sommes posée, une fois que nous avons goûté à cette joie dans le Seigneur, est-ce que vous en êtes assoiffé? Alors cela nous amène maintenant à considérer deux choses, le comment et ensuite les conséquences. Comment être rempli d'esprit et ensuite quelles sont les conséquences d'être rempli d'esprit. Alors, dans notre texte, Éphésiens chapitre 5, au verset 18, nous allons lire le texte, puis ensuite nous allons regarder ces deux thèmes-là. Alors, Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voilà notre texte. Et alors le comment? Comment pouvons-nous, vous et moi, nous expérimenter la plénitude de l'Esprit? Alors, pour répondre à cette question, il faut tout d'abord comprendre qu'est-ce que la plénitude n'est pas. Qu'est-ce que la plénitude n'est pas? Et dans un premier temps, la plénitude n'est pas une expérience extatique. Où est-ce qu'on tombe en transe? Où on a des visions? Où on s'exprime dans une langue inconnue? Parce qu'on a reçu ce qu'on appelle une deuxième bénédiction. L'Esprit est venu du jour de la Pentecôte, nous l'avons dans les Actes des Apôtres, d'autres occasions, et avec la venue de l'Esprit, oui, il y avait justement des choses extraordinaires. Mais nous croyons que c'était pour authentifier l'Évangile, et depuis ce temps-là, ces choses extraordinaires sont terminées. D'ailleurs, nous avons, dans 1 Corinthiens 13, nous disent que les langues cesseront. Alors, remplir l'esprit, ce n'est pas tomber par terre et commencer justement à rouler ou faire des choses bizarres. Ce n'est pas une expérience extatique. Deuxièmement aussi, ce que l'esprit, remplir l'esprit n'est pas, ce n'est pas être habité par l'esprit. Tout croyant, le jour que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint est venu vous habiter. Vous possédez le Saint-Esprit. Nous possédons tous le Saint-Esprit. Et c'est parce que nous possédons le Saint-Esprit que nous pouvons en être remplis. Jésus a dit dans Jean 7, 38, 39, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alors, ce n'est pas la même chose. Remplir l'Esprit, c'est de posséder ou être habité par l'Esprit. Troisièmement, rempli de l'Esprit n'est pas le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit, cela a eu lieu le jour de votre conversion. Le baptême de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui prend le croyant de façon spirituelle. Ce n'est pas quelque chose que vous avez ressenti, mais vous avez été immergé dans le corps de Christ pour former le seul corps. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit ceci, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Et baptiser, c'est identifier. C'est un mot qu'on utilise autrefois dans l'Antiquité. On prenait un morceau de tissu et on l'a plongé dans une teinture. Et la teinture et l'étoffe prenaient la couleur de la teinture. Et ça, c'était le mot baptisé. Et la même chose aussi, le parallèle est là, quand nous sommes sauvés, nous nous identifions avec le Seigneur Jésus-Christ, nous avons sa nature en nous, et l'identification est là. Alors ça, c'est l'idée, mais ce n'est pas non plus la plénitude de l'esprit. Et finalement, la plénitude de l'esprit n'est pas un processus par lequel nous recevons l'esprit petit à petit, jusqu'à ce que nous soyons pleins. Dans Jean 3, 34, Jésus a dit ceci, « Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. » Alors, si la plénitude de l'esprit n'est aucune de ces choses, qu'est-ce que c'est alors? Et dans un premier temps, la plénitude de l'esprit, c'est un processus entraînant. Un processus entraînant. Si vous regardez le texte, « Soyez remplis ». Et dans l'original, vous avez ici le temps du verbe, c'est présent, passif, impératif. C'est un ordre, un commandement. Ce n'est pas une option. Le passif nous parle de, ce n'est pas tellement ce que nous faisons, mais ce que nous permettons qu'on nous fasse. Petit exemple de français. Si je dis « Jean mange la pomme », le verbe « mange » est à la voix active, parce que Jean, c'est lui qui fait l'action. Mais si je vous dis que la pomme a été mangée par Jean, mais là nous sommes à la voie passive parce que c'est la pomme qui subit justement l'action. C'est la même chose. Nous avons un passif ici qui nous dit simplement qu'est-ce qu'on permet à l'esprit de faire en nous. Et deuxièmement, vous avez, c'est sûr que nous avons un rôle à jouer dedans. Mais l'emphase, on focalise ce qu'on permet à l'esprit de faire en nous. Et le temps présent qui est là parle d'un aspect qui est constant, qui indique aussi à tout instant, continuellement, de la plénitude. Donne l'exemple. Si tu manges la nourriture que vous avez mangée hier et que vous mangerez demain, ne suffira pas à calmer votre faim présente. Si vous avez un creux là, ici, là, ça gargouille, ça fait du bruit. Mais la nourriture que vous avez mangée hier ou bien que vous mangerez demain ne suffira pas à calmer justement cette faim. C'est la même chose aussi pour la plénitude. La plénitude que vous avez expérimentée hier ou nous expérimentons, nous espérant expérimenter demain, ne suffira pas non plus aux besoins du moment présent. Le présent nous dit que c'est quelque chose qui devrait être actuel, continuel, constant de tout instant. Et j'aime beaucoup comment une parole vivante traduit ce texte. Vous le voyez dans la traduction. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par l'Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Vous le voyez, constamment, à nouveau, maintenant, demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, toujours, vous et moi, nous sommes exhortés d'être remplis de l'Esprit. Alors ça, c'est le temps du verbe. Maintenant, qu'en est-il pour la signification? Dans l'original, vous avez ce mot « pléro ». Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est le mot dans le grec. Et le mot veut dire simplement « être rempli, comblé, rempli jusqu'au bord, complètement perméable ». Et il y avait des utilisations différentes à l'époque. Dans un premier temps, le verbe était utilisé pour, comme signification, ça voulait dire pousser. Si, par exemple, vous avez un navire avec des voiles et vous avez le vent qui remplit les voiles et qui pousse le navire pour le faire avancer. Ça, c'est une signification de ce mot-là, rempli. Vous avez aussi une deuxième signification qui voulait dire posséder. Je pense que j'en manque un. OK, je vais revenir pour le troisième. Le deuxième, ce n'est pas là, mais c'était perméable. On prenait un morceau de viande, on l'assaisonnait de sel, et le sel pénétrait justement la viande pour lui donner goût et saveur. Et ça, c'est l'idée justement, et c'est une belle image du croyant qui est rempli d'esprit et qui maintenant possède, qui a été pénétré par l'esprit et qui dégage justement les grâces de Christ. Et le troisième, et ça où est-ce qu'on va mettre l'emphase, c'était justement utilisé pour décrire quelqu'un qui était possédé par un sentiment, par exemple la joie, la tristesse, etc. Je vous donne quelques exemples. Dans Jean 16, 6, Jésus a dit à ses disciples, « Parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » Alors les disciples étaient là dans la chambre haute. Le Seigneur, il leur parlait justement de son départ, sa crucifixion. Ils étaient possédés. Ils étaient remplis justement de tristesse, complètement contrôlés par la tristesse. Donc, en Romains 15, 13, Paul va dire ceci, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Alors, c'est un mot qui voulait dire contrôler, animer, gouverner, posséder, même par quelqu'un. Dans Actes chapitre 5, au verset 3, nous avons Pierre qui parle à Ananias. Il dit, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur jusqu'à ce point que tu montes au Saint-Esprit? » Alors, que ce soit par un sentiment, la tristesse, la joie, la paix, ou même par quelqu'un comme nous avons vu comme par Satan, celui qui est rempli n'a plus de contrôle sur lui-même. Ça, c'est l'idée d'être rempli. Celui qui est rempli est contrôlé, animé, gouverné, dominé, possédé, et bien sûr, dans le contexte ici, par l'Esprit Saint. Et nous avons les exemples dans la parole de Dieu. J'ai choisi cet exemple par excellence, le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, ici, vous avez un contraste, parce qu'encore une fois, si on revient dans le contexte, c'est le contexte de l'ivresse. Il y avait ceux à Éphèse qui allaient dans les temples païens et qui utilisaient et qui abusaient de l'alcool et qui étaient possédés, contrôlés, dominés par l'alcool. Et dans ce contexte-là, ils cherchaient le plaisir et les expériences religieuses. Paul fait le contraire. Laissez-vous dominer, gouverner, contrôler par le Saint-Esprit. Et là, vous allez avoir une vraie expérience religieuse. Nous avons cela dans la personne du Christ. Je vous donne quelques exemples. Dans Luc chapitre 4, verset 1er, parce que Jésus était continuellement contrôlé par l'Esprit Saint. Jésus remplit l'Esprit, vous le voyez, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Dans Marc chapitre 4, verset 1, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Dans Marc 1, 12, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Alors que ce soit par conduit, emmené, poussé par l'Esprit, ce texte nous révèle que Jésus était rempli d'Esprit complètement, totalement, entièrement sous son contrôle. Alors, ça c'est le sens justement, ou la signification d'être rempli d'esprit, c'est d'être contrôlé par l'esprit, d'être conduit par l'esprit, d'être possédé par l'esprit. Mais maintenant, on arrive au moyen. Comment est-ce que dans le pratico-pratique, ça se passe? Qu'est-ce que vous devez faire, ou moi je dois faire, ou ne pas faire, pour permettre à l'esprit de nous remplir? Tout d'abord, il faut y avoir la confession du péché. La confession du péché. Pourquoi? Parce que comme son nom indique, l'Esprit est saint. Dans Romains 1, 4, l'apôtre Paul va rappeler aux croyants à Rome, il va l'appeler l'esprit de sainteté. Et parce que l'esprit est saint, l'esprit et le péché ne peuvent cohabiter en paix. C'est impossible. Celui qui veut être rempli par l'esprit, celui qui veut laisser l'esprit le remplir, doit tout d'abord confesser et continuellement confesser ses péchés, parce que l'esprit dans sa sainteté ne peut pas cohabiter avec le péché. Quand il y a la présence du péché, la Bible nous dit que l'esprit est attristé. Et quand l'esprit est attristé, vous pouvez être certain que vous n'êtes pas rempli de l'esprit, vous n'avez pas la plénitude de l'esprit. En anglais, on dit « they don't mix ». Se mélange pas ensemble. Et vous donnez une illustration. Si vous prenez deux liquides, vous avez de l'huile et de l'eau, et vous les mettez ensemble, vous pouvez les brasser autant que vous voulez, déposer le bocal pendant quelques instants, vous allez retourner, vous allez voir deux liquides. Eau, puis vous avez de l'huile. L'huile qui flotte sur l'eau. Pourquoi? Parce que les deux ne vont pas ensemble. Et péché et sainteté de l'esprit ne vont pas ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuellement être dans la présence de Dieu, demander au Saint-Esprit de nous sonder. Et qu'importe le péché, si vous manquez d'imagination, on va aller dans Galates chapitre 5, pas besoin d'y aller tout de suite, mais le texte dit, nous donne la liste. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités et bien sûr les choses semblables. Alors, ça là couvre tout. Et vous savez, le Saint-Esprit, sa job, comme on dit en bon québécois, c'est de justement nous révéler le péché. Dans Jean 16, 8, Jésus a dit ceci, quand il sera venu, le consolateur, il parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde, ça c'est vous et moi inclus, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, le chrétien qui va dans la présence de Dieu, qui est soucié d'être rempli d'esprit et qui demande à l'Esprit Saint de sonder son cœur et de révéler s'il y a du péché en lui, c'est certainement c'est une prière que le Saint-Esprit va exaucer. Parce que son désir, c'est de nous remplir. Et sa fonction, c'est de convaincre justement du péché, de la justice et du jugement. Et quand le Saint-Esprit nous convainc, s'il vous plaît, et je parle à moi-même aussi, soyons humbles. N'argumentons pas, ne résistons pas, ne nous trompons pas par un faux raisonnement. Dites tout simplement, oui, je suis coupable. Pense ici aux paroles de David dans Psaume 51:6. Qu'est-ce qu'il a dit après son péché? Il est allé dans la présence de Dieu, il s'est humilié, il a dit, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Alors, il y avait une confession, il s'humilie, confesse le péché. Et vous savez, pour celui qui confesse le péché, la Bible nous dit, deux textes qui nous encouragent, Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais quelle belle promesse, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et le texte que vous connaissez tous, dans 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, l'Esprit révèle le péché. Le croyant confesse son péché et Dieu pardonne le péché confessé. Aussi simple que cela. Deuxièmement, si on veut être, on laisse le Saint-Esprit nous remplir, il y a la confession du péché, mais il y a aussi, il faut y avoir la connaissance de la parole. La connaissance de la parole. Nous avons un texte dans Colossiens 3, 16 qui est presque identique à Éphésiens 5. C'est un texte parallèle. Et le texte dit ceci, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous par les psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Et ensuite, on parle de rendre grâce et ensuite on parle aussi de la soumission. Vous voyez le parallèle? Éphésiens 5 dit, soyez remplis de l'Esprit. Ensuite, le texte dit, entretenez-vous par les psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Rendez grâce, ensuite, la soumission. Colossiens 3 dit à peu près la même chose, mais il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute votre sagesse. Alors, celui qui est rempli l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il chante, il rend grâce, il pratique la soumission. Ça, c'est Éphésiens 5. Dans Colossiens 3, celui qui est rempli l'Esprit, à qui est rempli la parole, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, qu'est-ce qu'il fait? Mais il chante, il rend grâce et il pratique la soumission. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Que être rempli de l'Esprit égale être rempli de la parole. Il y a un lien étroit entre les deux. Vous ne serez jamais rempli d'Esprit si vous n'êtes pas rempli de la parole de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Il y a deux textes qui nous parlent de cela. Quand la parole de Dieu remplit justement le croyant, la parole de Dieu a une puissance. Et qu'est-ce qu'elle fait? Hébreux 4, 12 nous dit qu'elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors ça, c'est ce que la parole de Dieu fait. Souvent, on dit à quelqu'un, vous avez des difficultés dans votre vie, mais change la cassette. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire prendre la parole de Dieu, vous allez le lire, vous allez le méditer, vous allez l'emmagasiner, et cette parole, dans sa puissance, va pénétrer dans votre âme intérieure et va changer les choses. Et c'est la même chose ici. La parole de Dieu est puissante. Elle va pénétrer et va juger nos pensées, elle va transformer nos pensées, et justement, elle va surgir et ça va déborder dans nos actions. Nous avons un texte dans Proverbes qui nous dit ceci, en parlant de l'homme est comme les pensées de son âme. La façon dont on pense, c'est exactement la façon dont on agit. Et quand nos pensées, nos actions sont contrôlées et dirigées par la parole, nous sommes de plus en plus contrôlés par l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit qui a inspiré la parole. Alors quand nous permettons à la parole de nous contrôler, de nous pénétrer, de diriger nos pensées et qui ça jaillir ou sur nos gestes, nous sommes en train d'être contrôlés par l'Esprit Saint. D'où l'importance de lire la parole de Dieu. D'où l'importance de méditer la parole de Dieu. D'où l'importance de mémoriser la parole de Dieu. Et vous, les jeunes, vous avez... si le Seigneur tarde et vous restez en bonne santé, vous avez toute une vie devant vous. Et c'est le temps. Hein? L'Ecclésiaste dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Et quelle richesse d'être jeune, d'avoir une mémoire fertile et d'être capable justement de prendre la parole de Dieu puis de l'emmagasiner, de mémoriser, la méditer et voir le fruit que ça va produire. Et je vous encourage justement de faire cela. Attendez pas que vous avez des cheveux gris puis là, quand on commence à perdre une couple de cellules, là, puis c'est plus difficile là, pour la méditation. Alors ça, c'est par la connaissance de la parole. Et là, il y a une troisième chose aussi, troisièmement. Alors, nous avons la confession de nos péchés. Nous avons la connaissance de la parole. Mais aussi, pour permettre à l'Esprit de nous remplir, ça prend aussi la communion dans la prière. D'ailleurs, il y a un texte dans 1 Samuel. Samuel va dire aux enfants d'Israël, « Loin de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Alors, le chrétien qui a cessé de prier, automatiquement, il est en train de pécher. Et quand on pêche, le Saint-Esprit est attristé. Et quand le Saint-Esprit est attristé, vous ne pouvez pas connaître la plénitude. Alors la plénitude de l'esprit aussi est favorisée par une communion avec Dieu dans la plénitude. Et pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Parce que quand nous sommes dans la prière, quand nous, comme le texte nous dit, va dans ta chambre, ferme la porte, qu'importe où tu pries, là, je ne sais pas où vous priez chez vous, que ce soit dans une garde-robe, que ce soit au sous-sol, que ce soit dans la voiture, n'importe où, mais qu'importe où vous êtes. Quand vous êtes dans la prière, votre cœur est en train de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. C'est un cœur dépendant. C'est un cœur qui est en train de dire, j'ai besoin d'être guidé, d'être contrôlé. Quelqu'un qui prie est en train de dire au Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Et quand vous êtes dans cette attitude-là, vous êtes en train, justement, votre cœur est en train de dire, justement, j'ai besoin de cette connaissance, cette sagesse, d'être guidé, d'être contrôlé. C'est un cœur qui s'ouvre, justement, à la plénitude d'esprit pour que l'esprit vienne et contrôle et dirige. Et c'est une condition que le Saint-Esprit ne tardera pas, justement, à remplir. Il va venir à l'appel. Et il y a quelques textes que j'ai vus dans la parole de Dieu qui nous montrent un lien entre la plénitude d'esprit et la prière. Et faites attention, parce que ce qui est arrivé pendant, dans les actes des apôtres est spécial. On ne peut pas prendre tout dans les actes des apôtres puis faire copier-coller. Ça ne fonctionne pas. Il y a des choses qui étaient propice pour cette période de temps. Mais le lien est là, quand même. Jésus a dit à ses disciples de retourner à Jérusalem. Il dit, vous allez recevoir une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, etc., etc. Et les disciples vont à Jérusalem, ils vont aller dans la chambre haute, où ils se tenaient d'habitude, et ils vont persévérer dans la prière. Et quand ils sont dans ce contexte de prière, le texte nous dit que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. L'Église, sa naissance est là. Les disciples sont remplis d'esprit. Il y a aussi Saul de Tarse qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Une conversion bouleversante. Et cet homme, qu'est-ce que le texte nous dit? Dieu va parler à Ananias. Il va dire, va trouver Saul de Tarse, la rue qu'on appelle la droite. Car il prie. Saul était dans la prière. Et justement, il voit cet homme, Ananias, qui vient à lui poser les mains. Et quand Ananias est allé voir Saul de Tarse, il a dit ceci. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus m'a envoyé pour que tu te recouvres la vue et que tu sois, quoi, rempli de l'Esprit. Et dans Éphésiens 6, 18, il y a un texte qui nous dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alors, dans la communion de la prière, est un cœur qui est dépendant, un cœur qui est vide de toute prétention, tout orgueil, toute suffisance, un cœur qui est propice à la plénitude de l'Esprit Saint. C'est pourquoi j'ai appelé ça un processus entraînant. Pourquoi? Je veux faire une parallèle ici. Celui qui a commencé à boire, c'est rare que le jour au lendemain, il devienne un alcoolique. Il faut que la personne pose un geste délibéré, répéter jusqu'à ce qu'il devienne accro. La même chose avec la plénitude de l'esprit. Plus qu'on est, on expérimente la plénitude de l'esprit, plus qu'il y a la confession du péché, plus qu'il y a la parole de Dieu qui nous remplit, plus qu'il y a la communion dans la prière, plus que nous allons avoir comme un alcoolique, on va devenir assoiffé. Et plus qu'on continue dans cette voie, inévitablement, on va devenir accro. Et quand on est accro, mais justement, le texte nous dit, continuellement, constant, à chaque instant, remplis l'esprit. Et celui qui est accro à quelque chose, c'est ce qu'il cherche tous les jours, moment, instant, après instant, il veut l'avoir. Et c'est la même chose aussi avec la plénitude d'esprit. Une fois qu'on continue, c'est un processus qui nous entraîne à en vouloir plus, et en vouloir plus, et en vouloir plus jusqu'à ce qu'on devienne accro. Et c'est ce que Dieu désire pour ses enfants. Question que je vous pose ce soir, en êtes-vous un accro? Et ça, c'est un bon type d'accro, hein? D'être un accro de l'Esprit Saint. Alors, voilà le comment. Maintenant, le cinquième point, c'est les conséquences. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un croyant qui est rempli d'esprit? Ça mange quoi en hiver? Quelqu'un qui est rempli d'esprit. Mais là, vous l'avez dans le texte. Regardez au verset 19. Le texte nous dit, entretenez-vous par les psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, tout d'abord, il y a le chant. L'évidence d'un cœur qui est rempli d'esprit, c'est un cœur qui est joyeux, un cœur qui déborde de joie. Il y a le chant. Ce mot « entretenez-vous », c'est un mot qui est très intéressant dans l'original. C'est le mot « laléo », qui veut dire simplement émettre un son ou faire les lala. C'est ce qu'on appelle un onomatopée. Si je vous dis « bang », mais ça c'est un son qui, justement, c'est un mot, mais le son du mot, c'est le coup d'un fusil. Et là, vous avez le mot et le son qui vont ensemble. Si vous marchez sur un plancher qui n'est pas à niveau, vous entendez cric, crac, mais c'est le mot qui donne le son. C'est la même chose ici dans le texte original, la, léo, la, la, ça veut dire faire des la, la, faire des sons. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? C'est qu'on n'a pas tous des belles voix. On ne chante pas tous comme les anges. Alors, il y a quelques-uns qui faut qu'ils fassent un lala, il n'y a pas un choix. Mais Dieu est gracieux. Et il nous permet, même en faisant des lala, de le louanger. Si ça vient du cœur, les lala sont acceptables. Et là, nous avons maintenant des classes de différents chants, des psaumes. Quelques-uns, commentateurs, pensent que c'était justement ça vient du sautier, les psaumes, qui ont été mis justement à la musique et qui étaient chantés. Vous avez psaume 120, 134. Les pèlerins, quand ils s'en allaient à Jérusalem pendant les grandes fêtes, des chants de degrés, des psaumes d'ascension, chantaient justement des cantiques. Et là, l'emphase est mise sur Dieu. Dieu est là. Il y a aussi quelques-uns qui disent des hymnes. C'est plutôt le Seigneur Jésus-Christ où est-ce qu'on focalise sur sa personne. Et là, vous avez probablement l'Église primitive qui chantait des textes comme Colossiens 1, 12 à 16. Et là, vous avez aussi des cantiques spirituels. Ça, c'est tout ce qui parle de la vie chrétienne, les témoignages, des circonstances, la joie, la paix, la souffrance et ainsi de suite. Et là, vous avez pour tous les goûts. Et vous savez, je ne veux pas ce soir entrer dans un débat en ce qui concerne la musique qu'on devrait chanter dans l'Église. Qu'est-ce qu'on chante? Ça devrait-tu des chants traditionnels, conservateurs, contemporains, type d'accompagnement, guitare, pas de guitare, classique, acoustique, électrique, piano, batterie, whatever? Vous savez, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, ça fait couler beaucoup d'encre, et même, ça peut même aussi aller jusqu'aux divisions dans les Églises. Je pense que ce qui est ici, c'est une question de goût. Qu'est-ce que Dieu veut, justement, ici, le texte nous dit, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on est ainsi? Parce qu'on peut faire des gestes, on peut remuer des lèvres, On peut même faire des beaux lala. Et si le cœur n'y est pas, ça ne vaut pas grand-chose. Je vous cite un texte dans Ésaïe 29, 13. Dieu fait une reproche à Israël. Il va dire ceci. « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais quoi, son cœur est éloigné de moi. » Et je peux vous dire que c'est facile. C'est très facile de venir ici. On met le masque, on chante, on remue des lèvres. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que notre cœur y est? C'est ce que Dieu demande dans ce texte. Célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Qu'est-ce qui nous empêche de chanter, justement, avec tout notre cœur? Mais c'est tout, j'ai mis des textes là pour vous démontrer. C'est encore le péché. Vous avez un contexte d'Israël qui est en Babylone, en captivité, à cause justement de l'idolâtrie. Et là, ils sont assis sur les bords des fleuves de Babylone. Ça, c'est le psaume 137. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on a suspendu nos harpes. Et là, il y avait leurs oppresseurs qui leur demandaient des chants. Chantez-nous l'un de ces cantiques de Zion. Et ils ont dit, mais comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? La défaite totale. Défaite totale. Ils ne pouvaient pas chanter à cause du fait qu'ils subissaient justement les conséquences de leur péché. Et c'est ce qui arrive quand on est dans le péché, quand on continue dedans, on perd notre chant. Vous savez, le Seigneur est gracieux. Parce que quand on confesse nos péchés, j'aime le texte dans Ésaïe 61 qui, le Seigneur a dit ici, qu'il est l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ils m'ont envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont perdu leur chant, pour donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et ça, c'est ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël. Si vous lisez le psaume 126, pas besoin de tourner, mais quand ils sont revenus dans le pays après l'exil, écoutons ce qu'ils ont dit. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de croix, des cris de joie. Et notre langue, des chants d'allégresse. On disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et là, il y a un refrain. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Vous voyez, ils avaient retrouvé leur chant. Le Seigneur avait fait des grandes choses. Après, justement, 70 ans d'exil, ils nous ont ramenés en Israël et ils avaient retrouvé leur joie. Et ce soir, si vous avez perdu votre chant, ma prière pour vous, c'est de le retrouver. C'est de retrouver. C'est notre marque de commerce, d'être joyeux dans le Seigneur. Je vois que le temps file. Je dois filer. J'ai juste écrit ici. Celui qui est rempli de l'esprit chante du cœur, quelqu'un dit ceci, avec son cœur, parce qu'il y a un chant dans le cœur. Ça, c'est très bien dit. Deuxièmement, les conséquences de la plénitude, la reconnaissance. Le texte nous dit ceci, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. 1 Thessaloniciens 5:18 va nous dire en toutes choses. Et comment est-ce qu'on peut faire cela? Mais on peut remercier Dieu pour les bénédictions du passé. Sûrement, il y a des choses pour lesquelles vous pouvez rendre grâce au Seigneur. Votre emploi, votre santé, vos enfants, votre famille. Toutes sortes de choses pour lesquelles on peut rendre grâce au Seigneur. Vous savez, on vit dans un pays où est-ce qu'il fait bon vivre, il n'y a pas de guerre, et surtout pour le salut. On peut être reconnaissant pour les bénédictions du passé. Mais aussi, on peut être reconnaissant pour les bénédictions de l'avenir. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai. Et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où vous êtes, où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est une raison pour laquelle on peut rendre grâce. D'être reconnaissant qu'un jour, on va quitter cet état et on va être dans la présence du Seigneur. Alors, on peut être reconnaissant pour cela. Qu'en est-il du moment présent, surtout si vous êtes dans la souffrance ou dans la difficulté? La vie n'est pas rose. Vous avez des tracas. Vous avez des relations peut-être brisées. Vous avez toutes sortes de choses qui vous agacent. Comment est-ce qu'on peut rendre grâce dans ces circonstances? Mais la seule façon de faire cela, c'est Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu, dans sa grâce et dans sa puissance, est capable de prendre les problèmes, les difficultés du moment présent et de faire travailler cela pour votre bien. Et sachant cela, vous pouvez dire, Seigneur, je ne comprends pas tout. Mais je sais que je vais sortir de cette épreuve, il va y avoir un bien qui m'attend. Et je t'en remercie pour cela, le moment présent. Et vous savez, qu'est-ce qui peut nous donner cette conviction qu'on peut remercier le Seigneur même dans le moment présent? C'est de savoir que Dieu est souverain. Il est en contrôle. Et celui qui est rempli d'esprit est reconnaissant parce que son cœur est contrôlé par l'esprit qui lui donne la conviction que Dieu est en contrôle. C'est la seule façon que vous pouvez être capable de rendre grâce, être reconnaissant dans le moment présent si vous êtes dans des choses difficiles. Et je termine avec ceci, dernier point. Ceux qui sont remplis avec l'esprit pratiquent des mots, sont caractérisés par la soumission mutuelle. Le texte nous dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. On ne va pas développer cela ce soir, parce qu'on va voir cela plus tard dans les textes, où est-ce que dans les relations interpersonnelles, mari et femme, parents, enfants, employeurs, employés, vous avez justement cette soumission que Paul va développer dans les textes qui viennent. Mais j'aimerais juste simplement parler d'une chose. Parce que la soumission mutuelle se pratique dans la crainte de Christ. Le terreau de la soumission mutuelle et la crainte de Christ. Le chrétien, rempli d'esprit, a une crainte de Christ. Et cette crainte n'est pas une peur, c'est une révérence, c'est un respect. C'est justement de savoir que Dieu est tellement grand, tellement magnifique, qu'on a cette révérence pour sa personne. Et quand vous avez cela, vous allez être automatiquement rempli aussi de la même révérence, respect, déférence envers les membres du Christ, les membres de son corps, parce que vous faites partie du corps de Christ. Et si vous respectez justement le Seigneur, vous avez la crainte de Christ, automatiquement vous devrez aussi vous respecter les uns les autres. Et nous devrions nous respecter les uns les autres parce que chacun de nous, nous avons le Christ en nous. Et celui qui a alors l'esprit en lui était humble, altruiste et traite les autres membres du corps avec respect. Mais celui qui ne marche pas dans la crainte du Seigneur, c'est quelqu'un qui va être orgueilleux, égoïste et qui va traiter les autres, comme on dit en bon québécois, comme du poisson pourri. Et ça, ce n'est pas beau à voir. Mais dans la plénitude, il va avoir cette soumission mutuelle parce qu'on fait, on va traiter mon frère, ma soeur, comme si cette personne-là était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous vous rappelez l'histoire de Saul de Tarse quand il persécutait les chrétiens? Jésus va l'arrêter. Il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Voyez le lien intime. Nous sommes des membres du corps de Christ. Et quand Saul ravageait l'Église et arrachait des hommes et des femmes et les jetait en prison, Jésus a dit, tu me touches. Ça sont mes membres. Tu me fais mal. Et c'est la même chose aussi. Dans la crainte de Christ, remplie d'esprit, nous allons démontrer ce même respect pour les membres du corps de Christ. Alors, il reste une dernière question à se poser. À nous poser, nous avons besoin justement de la plénitude de l'esprit. Parce que sans la plénitude, sans le chant, sans la reconnaissance, sans la soumission mutuelle, nous sommes condamnés à vivre la faiblesse, la médiocrité, la disette spirituelle et la défaite. Immanquablement. Si on veut remporter la victoire, une seule condition s'impose, c'est la plénitude de l'esprit. Je vous laisse avec une dernière question. En êtes-vous armé? Quelle belle arme d'avoir la plénitude d'esprit justement pour remporter la guerre spirituelle. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous avons dit beaucoup de choses, mais toi, seul par le Saint-Esprit, est capable de faire l'application. Et c'est ce que nous te demandons ce soir, que tu connais nos besoins et que tu puisses venir en aide à chacun de nous. Rentre dans le plus secret de nos cœurs et faire ton œuvre. Faire une œuvre, Seigneur, qui va même jaillir jusqu'à dans l'éternité. Merci pour la présence de l'Esprit avec nous. Que nous puissions être de ceux qui le permettent de faire son œuvre en nous, afin que nous puissions ressembler de plus en plus à ton Fils. Sépare-nous avec ta bénédiction. Merci encore pour toutes tes grâces et tous tes bienfaits. Seigneur, que nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen.